C'est l'heure d'Itinéraire BIS, notre rendez-vous de reportage. Bonjour Clément Salzar.
Bonjour Lucas, bonjour à tous et à toutes.
Troisième épisode d'une série d'Itinéraire BIS autour du climat. Toute cette semaine, on en parle, mais ce matin, plus particulièrement d'urbanité. Une étude qui a été publiée par la revue Nature Climate Change révélait en mai dernier que la température des villes les plus peuplées du monde pourrait croître de 8 degrés. 8 degrés, hein, c'est quand même très impressionnant, d'ici à 2100.
Or, il fait déjà plus chaud en ville du fait du phénomène des îlots de chaleur urbains. En 2003, au moment de la canicule, les écarts entre Paris et les zones rurales pouvaient déjà atteindre les 8 degrés. En Seine-Saint-Denis, où on déplore souvent les fameux geysers sauvages, le département a été le deuxième le plus touché par la surmortalité. Pas étonnant, ces quartiers populaires sont très minéralisés, donc très vulnérables au phénomène d'îlots de chaleur, comme le montre la cartographie thermique réalisée par l'APUR, l'Association parisienne des urbanistes. On y repère sur ces cartes îlots de chaleur, mais aussi, c'est inédit, îlots de fraîcheur, des cartes d'ailleurs accessibles en ligne sur leur site. Rencontre tout de suite avec Julien Bigorgne, ingénieur environnement à l'APUR.
Le défi aujourd'hui climatique, c'est d'éviter que tout le monde climatise partout, parce que si tout le monde climatise partout, là on est dans une stratégie d'emballement du changement climatique, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on utilise de l'énergie, et plus on utilise de l'énergie, et plus il fait chaud, etc., etc. Donc il y a cette idée de prendre les choses en main, en tout cas de les prendre un peu de l'avant et de dire qu'on a pas mal de solutions sous la main pour créer une ville beaucoup plus fraîche.
Alors Julien Bigorgne, on se trouve ici dans le parc des Buttes-Chaumont, un point très haut de Paris et on le sent, l'air circule, l'air ambiant est rafraîchissant, c'est un espace naturel très vaste, on a beaucoup de végétation et on a beaucoup d'eau, d'ailleurs on l'entend un peu, hein, notre brumisateur naturel là. Mais un îlot de fraîcheur comme celui-ci, on ne peut évidemment pas le répliquer. Alors comment on fait rentrer de la fraîcheur dans l'hypercentre parisien où, justement, là, on a des ruelles très étroites et des rejets d'air chaud sur l'espace public du fait de l'utilisation de la climatisation?
La question effectivement qui se pose, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive dans les quartiers les plus denses de Paris, par exemple le 9e, le 10e, à essayer de créer de la fraîcheur en utilisant ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, c'est la végétation, c'est éventuellement de l'arrosage. Par exemple, laisser pousser la végétation au pied des immeubles, pourquoi pas retirer l'asphalte sur certains trottoirs et aller planter, laisser courir la végétation sur les gouttières, sur les façades. Enfin, il y a cette question un peu de la végétation un peu plus intrusive, c'est-à-dire la laisser sortir des parcs et jardins et la faire un peu rentrer dans le cadre urbain quotidien. Et on sait que c'est une marge de manœuvre intéressante parce que dès qu'il y a du végétal, il y a de la fraîcheur. Donc là, on a une clé qui est assez importante pour l'adaptation au changement climatique.
En réalité, Clémence, le frais, on le trouve surtout sur les toits de Paris.
Mais parce que le piéton n'a pas forcément vu sur la voûte céleste, c'est poétique dit comme ça et c'est l'expression consacrée, il faut pouvoir rafraîchir au ras du sol. Par exemple, arroser, tout simplement, une esplanade de gare. Et pour cela, la capitale française est chanceuse. Elle dispose d'un réseau d'eau non potable prélevé dans l'Ourcq et la Seine. Des solutions simples et économiques. D'ailleurs, Julien Bigorgne nous dit que si la mesure d'aménagement est coûteuse, c'est qu'il y a un loup.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de coût supplémentaire à ce genre de mesure. Et au contraire, on commence à sortir un peu d'une amnésie qu'on avait depuis 100 ans à propos de la ville, parce que là, finalement, cette ville ultra asphaltée, avec du bitume partout, etc., c'est une ville en fait qui s'est adaptée à la voiture, hein, à la circulation automobile. Ça, c'est vraiment l'impasse. Et donc, très souvent, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est un peu la redécouverte de vieux trucs qu'on avait complètement passé sous silence. Donc, sous l'asphalte, vous avez du pavé et sous le pavé, vous avez du sable. Donc, il suffit de retirer l'asphalte des pavés et vous avez le pavé avec son petit lit de sable en dessous. Ça, c'est un revêtement qui est très, très performant d'un point de vue climatique. Parce que quand vous l'aspergez, l'eau passe en dessous, elle reste bloquée dans le sable et dès qu'il fait très chaud, l'eau ressort et s'évapore et donc rafraîchit. Et donc vous avez un revêtement qui à la fois est très adapté à la circulation automobile et en même temps vous avez un revêtement qui marche bien d'un point de vue climatique. Donc c'est plutôt redécouvrir des choses qu'on a complètement oubliées. Haussmann avait pensé déjà à l'îlot de chaleur urbain. Il avait créé des machines d'arrosage à l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 150 ans déjà, Haussmann avait compris que la ville était un endroit plus chaud. Et donc il fallait arroser l'été. Et donc tout ça, c'était déjà compris à l'époque. Donc voilà, on n'a pas forcément énormément de chemin à refaire.
S'adapter au changement climatique en ville semble donc à portée de main. Et finalement, n'en déplaise à Baudelaire, nous ne pourrions ici que nous réjouir que la forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel.